RCF.
Et toute cette semaine, nous nous replongeons dans les questions de la liturgie. Nous le faisons avec le Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour.
Bonjour Madeleine.
Père Charles-Marie, dans cette lettre écrite par le pape François, un ardent désir, il évoque le fait qu'il faille redécouvrir le sens théologique de la liturgie. Alors, ça interpelle un peu. Quel sens pourrait avoir la liturgie si ce n'est pas celui de la théologie? Pourquoi est-ce qu'il lui faut revenir sur ce qu'est la liturgie et surtout en quoi elle a un sens théologique?
Alors, le terme théologique signifiant bien entendu le discours que l'on peut avoir sur Dieu, théologos, nous dit quelque chose de Dieu. Eh bien oui, la liturgie, elle est d'abord là pour nous dire quelque chose sur Dieu, elle est là pour nous mettre en lien avec lui, et évidemment elle n'est pas d'abord là pour nous mettre en lien entre nous, même si elle y participe. Et donc c'est par opposition peut-être au sens sociologique d'un rendez-vous où on trouverait un groupe particulier le dimanche matin, mais c'est bien quelque chose qui nous dit quelque chose de la présence de Dieu et de la présence de l'Église devant Dieu. Et c'est là où c'est important, c'est que c'est pas simplement, comme on l'a déjà évoqué, moi qui vais rendre mon culte à Dieu, mais c'est je participe à toute l'action de l'Église. Et la liturgie, elle est toujours l'action de l'Église. C'est pas le prêtre qui fait la liturgie, c'est pas moi qui fais la liturgie, c'est le Christ qui se donne dans l'Église.
Donc c'est un nous, mais un nous avec.
C'est un nous avec, exactement.
Puisqu'il est question de la liturgie comme source de l'authentique esprit chrétien, là il reprend des mots d'un autre texte qui était un texte conciliaire, et il évoque la place du silence. Je voudrais qu'on s'arrête parce que le silence, ça fait parfois aussi discussion dans les assemblées ou en tout cas avec les croyants, la place du silence. Le pape François, il évoque la place du silence en expliquant que le silence occupe une place d'importance absolue. Pourquoi est-ce qu'il doit venir redire que le silence, ça a une place d'importance absolue? Est-ce qu'on l'a oublié parfois?
Alors je pense, oui, qu'elle a pu être oubliée, cette place du silence, mais c'est de manière plus large la manifestation de ce que l'on est en train de vivre qui doit se laisser avoir. Et donc évidemment, si on remplit chaque espace avec de la musique, aussi belle soit-elle, on oublie qu'en fait, il y a quelque chose du mystère qui nous dépasse et qui ne peut pas se dire dans des paroles, dans des chants, dans la musique. Et donc, à un moment donné, devant quelque chose de grand, il est nécessaire de que les mots s'arrêtent pour pouvoir entrer dans quelque chose de plus profond. Il y a un adage liturgique que l'on entend souvent, et le pape François le cite, qui se dit ainsi « lex orandi, lex credendi ». C'est-à-dire que la manière dont on prie dit ce que l'on croit. Je résume un petit peu, je transforme un petit peu pour que ce soit plus facilement compréhensible. Mais la manière dont on va prier dit quelque chose de notre foi. Et donc le fait de mettre un silence, mais qui, comme le dit le pape François, n'est pas un silence vide, un silence de blanc, ou un silence où chacun se retrouve dans sa bulle pour se retrouver avec lui-même, mais vraiment un silence de contemplation devant quelque chose qui est tellement immense qu'on ne peut que s'arrêter, vous voyez, qui nous laisse l'espace pour le désir de la conversion, eh bien ce silence-là va dire quelque chose de ce qu'on est en train de célébrer, et on le voit bien, hein, il y a dans les liturgies, il y a des silences endormis, où en fait c'est parce que quelqu'un cherche sa feuille, ou que celui qui doit intervenir pour lire la prière universelle a oublié qu'il fallait prendre le micro. Là, c'est un silence qui est un silence raté. C'est pas un silence de liturgie, ça. En revanche, le pape le cite, après le prion, quand il y a la prière d'ouverture, là, il y a un petit temps de silence qu'il invite à respecter. Après, dans la prière eucharistique, après la communion, là, ce sont des silences habités. Et vous voyez, quand le prêtre, au cours d'une célébration, dit « prions », on pourrait être surpris parce que déjà ça fait 20 minutes qu'on prie, alors pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'on prie maintenant? C'est un petit peu différent, c'est maintenant chacun a prié, on a demandé le pardon du Seigneur pour ses fautes et on a chanté la gloire de Dieu, et là maintenant il recentre tout, il fait ce qu'on appelait autrefois la collecte, c'est-à-dire il collecte tout ce que les gens ont dans leur cœur, dans leur prière, et il laisse un temps de silence justement pour que chacun puisse se recentrer. Il dit prions. C'est pas le silence qui est la prière, c'est que chacun se met lui aussi à prier. Et cette prière est bien la prière de toute l'Église. C'est pas, même s'il y en a qu'un qui le lit, parce que c'est le prêtre qui préside qui la lit, en réalité c'est la prière de toute l'Église. Et le silence vient donner cette compréhension-là. Si on enchaîne tout de suite, on voit même pas trop pourquoi il vient de dire prions.
Alors, dans les silences ratés, comme vous le disiez, il y a aussi le silence qui serait un isolement intime. Vous l'évoquiez un petit peu, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile de comprendre comment on peut entrer dans le silence, se recueillir et être en même temps avec l'assemblée, être tourné vers le Christ, écouter ce que dit le prêtre. Cette intimité, elle est nécessaire aux croyants?
L'intimité est nécessaire. On l'a parfois un peu oublié, justement. Comme il y avait quelque chose de très personnel dans une manière, une certaine manière de vivre la liturgie et la messe avant le concile, où le prêtre faisait quelque chose que les gens n'entendaient pas et ne comprenaient pas, et donc
Parce que c'était en latin?
parce que c'était à voix basse, en latin, et pas fait pour être entendu, en fait. On partait du principe que tout n'était pas forcément fait pour être entendu, il suffisait de savoir ce qui se passait pour qu'on puisse y participer, ce qui est beau aussi. Mais du coup, on avait les gens qui prenaient leur missel, et qui, avec beaucoup de piété, et c'était très bien, hein, mais allaient prier des prières en français, dans leur coin, entre guillemets, pour essayer d'être en communion avec ce qui se passait, et c'est tout à fait louable, mais on s'est dit que c'était peut-être plus logique du coup que on puisse participer de manière un peu plus directe en entendant et en priant, mais cette dimension de prière intérieure, elle doit rester. Chacun participe à sa manière. On voit bien quand on a des supporters de sportifs, en fait les matchs sont quasiment toujours identiques, ça se joue à quelques points près, c'est toujours les mêmes règles, c'est toujours les mêmes personnes qui jouent, deux joueurs près, finalement ça change pas grand chose. Ce qui fait que ça les passionne, ce qui fait qu'ils sont prêts à y retourner toutes les semaines pour crier de tout leur cœur qu'ils sont contents que ça se passe ainsi ou qu'ils sont déçus que ça se passe autrement, c'est parce que c'est leur équipe qui joue, parce qu'en fait il se passe quelque chose pour eux à ce moment-là. Et la liturgie, elle est faite pour ça aussi. C'est de la même manière notre équipe qui joue, même si c'est pas nous qui sommes sur le terrain, même si c'est quelqu'un d'autre qui fait la lecture, même si c'est quelqu'un d'autre qui parle à ce moment-là, en fait c'est quand même mon équipe. Et donc ça peut me passionner.
Je voudrais qu'on revienne sur ce que dit le pape François à propos des symboles, parce qu'il explique aussi qu'actuellement, ça devient compliqué de comprendre les symboles. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les symboles sont moins présents, et il faut savoir les lire et apprendre à vivre les symboles. Il parle même d'une expérience vitale. Qu'est-ce que ça peut bien être de mieux comprendre les symboles?
Alors, il se pose lui-même la question, hein, numéro 45. Comment pouvons-nous redevenir capables de symboles? La liturgie est fondamentalement symbolique. Et là aussi, on retourne sur des grandes intuitions de Romano Guardini, avec cette dimension du symbole sur lequel je m'arrête une seconde, parce que aujourd'hui le terme symbolique ne veut pas dire ce que dit le pape François.
Donc c'est pas un concept mental, parce que depuis le début il nous dit que ce n'est pas cela. Donc
exactement, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui si je rachète la radio pour 1 euro symbolique, vous allez me dire c'est 3 fois rien et c'est ridicule et c'est pas ça veut dire que c'est négligeable. Dans le mot symbole que le pape François emploie, il y a quelque chose de tout à fait différent sur cette définition-là. Le symbole, c'est comme, on pourrait dire, si je vous l'explique très simplement, c'est le panneau directionnel. C'est-à-dire que il n'est pas la chose, mais il nous assure de la présence de la chose. Vous voyez, si je vois le panneau Paris sur le bord de la route, je sais que en le voyant, je rentre à Paris. Le panneau Paris n'est pas Paris, mais il me dit quelque chose de la réalité. Je suis à Paris. Eh bien, les symboles nous disent la même chose. Ils ne sont pas la chose, mais ils nous disent quelque chose qui n'est pas visible et qui est bien réel. Vous voyez. Donc mais le symbole est réel.
Mais Père Charles-Marie, on a envie de vous demander, très bien, mais moi, personne ne m'a expliqué la messe. J'ai suivi le catéchisme, j'ai célébré ma première communion, je suis devenu adulte, j'ai grandi dans cette église et aujourd'hui, peut-être que je comprends que la moitié des gestes qui sont pratiqués dans l'église, peut-être que je comprends que la moitié des silences dont vous parliez tout à l'heure, peut-être que chacune des phrases que vous dites, je ne les saisis qu'une fois sur deux. Comment mieux comprendre les symboles, comme il le dit, comment apprendre à lire et à vivre ces symboles pour nos auditeurs, comment faire?
Je cite donc le pape François pour vous répondre. La tâche n'est pas facile, car l'homme moderne est devenu analphabète. Il ne sait plus lire les symboles. Alors, il y a deux choses. C'est que la liturgie nous forme. Et ça, le pape François le dit très clairement. De participer à la liturgie, d'en être, d'essayer de suivre de tout son cœur, c'est petit à petit, elles nous modèlent et on les comprend de mieux en mieux, en fait. Il n'est pas non nécessaire d'avoir fait des grandes études de liturgie, de théologie, pour pouvoir tout comprendre, ou en tout cas pour pouvoir entrer dans ce mystère. Il y a rien que la participation, l'écoute attentive, d'essayer de goûter ce qui se dit et ce qui se fait, nous configure déjà, en réalité, à ce qui se passe, si c'est bien fait. Et c'est là aussi où le pape François encourage, hein, les pasteurs, ceux qui organisent la liturgie, à essayer de faire quelque chose qui soit justement formateur, enfin, qui permette aux gens d'entrer dans le mystère. Et c'est l'objectif de cette lettre. Puisque, vous l'aviez dit au début, hein, la lettre, elle est faite pour parler de cette fameuse formation liturgique. C'est destiné, donc, je vous l'avais dit, aux prêtres, aux liacres, aux évêques, aux consacrés, aux fidèles laïcs, sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Et il encourage chacun à se former. Et il existe des livres, des formations, il y en a dans les différents diocèses, qui permettent d'aller un peu plus loin. Et c'est ce que j'évoquais déjà. C'est pas parce qu'on a lu 8 livres de liturgie qu'on comprend forcément mieux le mystère. En revanche, de pouvoir creuser au fur et à mesure de sa vie, en fonction de sa croissance intérieure, spirituelle, de sa maturité, et de prendre de temps en temps un livre qui va nous permettre d'aller plus loin, ça fait partie du devoir du croyant. Parce que participer les deux mains dans les poches, avec un regard un peu lointain, à la liturgie tous les dimanches, c'est un peu dommage et c'est un peu pauvre. En fait, on est là pour creuser, pour approfondir, pour essayer de chercher à chaque fois ce que ça signifie, et d'essayer, au fur et à mesure de notre vie, d'aller pas à pas vers le mystère qu'on célèbre.
Merci Père Charles-Marie. À demain.
Merci Madeleine.